Cela nous amène tout droit à ouvrir la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Et je vais vous demander d'éteindre vos portables, de les mettre sous silence. Et comme vous le voyez, nous avons un invité surprise, le général Dos Santos Cruz, le commandant de la force de la MONUSCO, qui nous a rejoint pour cette deuxième partie de la conférence de presse. Je rappelle cependant que nous avons également avec nous l'équipe pays, Yvan Edemou pour les questions humanitaires et éventuellement Geneviève Delenoy, qui est disposée à répondre à d'éventuelles questions sur le volet développement. Voilà qui est bien dit et qui nous amène, alors qu'il est 11h30, à commencer donc cette séance de questions-réponses. Tout d'abord, une question à ma droite, au milieu quelque part, à l'arrière, parce que monsieur a souvent la parole, je crois. Et c'est vrai, il le reconnaît lui-même d'ailleurs, oui. Voilà. C'est un autre fidèle aussi des poseurs de questions. Allez-y, monsieur.
C'est monsieur Alain Waikani pour la télévision satellite de Chine. Monsieur, force commandant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne voyez pas que la situation en Irumu contre l'FRPI est en train d'échapper petit à petit au contrôle de la force de la MONUSCO, mais aussi des FARDC depuis que Cobra Matata a été arrêté? Est-ce que vous avez d'autres stratégies pour, ou bien approches pour, n'est-ce pas, venir au bout de ce qui se passe en Irumu actuellement? Merci.
Général.
Bonjour. Okay. Bon. Après le problème de janvier, quand la FRPI, il y avait la tentative de réduction de la FRPI, il y a le retour de la violation des droits de l'homme dans la région, parce qu'il n'y avait pas la concertation, la rendition effective de la FRPI. Alors, le problème, c'est vrai, le problème, beaucoup de problèmes dans la région, et je vais à Goma demain, et j'ai une réunion avec le commandant de la brigade de Ituri à Goma. Le commandant va à Goma pour parler avec moi, et nous allons recommencer et imaginer d'autres stratégies pour attaquer la FRPI pour la réduction de la violation des droits de l'homme dans la région.
Tout à fait, merci. Deuxième question. Juste à côté là, présentez-vous, le nom de votre organe.
Alain Mouzi pour la télévision Sangomalamou. Monsieur le porte-parole, je voudrais revenir sur la brigade d'intervention, les 3000 hommes, qui devraient avoir un mandat un peu plus efficace que les autres. On en parle de moins en moins, pourquoi? Et quelle est la ligne de démarcation entre les missions assignées à cette brigade d'intervention et le reste des casques bleus?
Général, nous avons la chance de vous avoir. Est-ce qu'on parle de moins en moins de la brigade d'intervention de la MONUSCO ici en RDC?
La brigade d'intervention de la MONUSCO ici. La brigade d'intervention était créée deux ans derniers. Et il y avait la réussite contre l'M23, et après beaucoup de petites confrontations avec la PCLS, avec Tchèque et d'autres groupes armés. Maintenant, la brigade déployée à Nord Kivu, il y avait 40% de la brigade dans les opérations conjointes contre l'ADF. Et il y a une expectative de recommencer les actions conjointes avec la FRDC contre la FDLR. Mais nous avons besoin de la solution de quelques problèmes entre la MONUSCO et le gouvernement pour la concertation parfaite pour recommencer les opérations. La situation de mandat, c'est très clair. Il n'y a pas de problème avec le mandat et de la activité de la brigade d'intervention. C'est un problème seulement de concertation avec le gouvernement et la FRDC.
Et je crois que le deuxième volet de la question était, est-ce qu'il y a une différence entre la brigade d'intervention et le reste de la force de la MONUSCO? Qu'est-ce que vous dites?
La brigade d'intervention et le reste de la force de la MONUSCO, il y a une différence entre la brigade d'intervention et le reste de la force de la MONUSCO, desde le mandat avant le mandat actuel. Il y a une différence d'application, une différence opérationnelle. Et cette différence était très forte d'abord, mais maintenant il n'y a pas beaucoup de différence. Il y avait une adaptation parfaite et nous sommes dans le terrain, la complémentation. Il y a une complémentation parfaite aujourd'hui entre la brigade d'intervention et le reste de la force de MONUSCO. Il n'y a pas de problème en ce moment.
Tout à fait. Après cette réponse sur la complémentarité au sein des différentes composantes de la force de la MONUSCO, nous allons reprendre. Est-ce qu'il y a une dame? Ce n'est pas parce que Kobler n'est pas là que nous allons ignorer les dames. Hein. Est-ce qu'il y a une dame? Une, au fond? Oui, allons-y.
Bonjour, c'est Laurette Mondal, Africa Télévision. Y a-t-il quelqu'un du BCNUDH pour répondre à ma question?
Personne n'est là, mais je vais essayer de répondre à votre question.
Voilà, en fait, c'est par rapport aux 400 corps qui ont été enterrés au cimetière Fula Fula à Maluku. Les membres du BCNUDH ont rencontré le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Dans une séance de travail, il leur a donné des réponses qu'il faut. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le BCNUDH va se contenter aux réponses données par le ministre ou il compte mener des enquêtes, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire.
Ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme va accompagner cette mission d'enquête qui a été diligentée sur le terrain, donc à Maluku, pour aider à voir un peu plus clair sur les circonstances qui entoure cette force commune. La MONUSCO prend acte déjà, d'ores et déjà, des résultats de l'enquête administrative diligentée d'ailleurs sur les informations faisant état donc de la découverte de cette force commune dans la zone. Elle salue déjà la démarche de communication qui a été faite autour de cette découverte par les autorités de la place. Et la MONUSCO se réjouit par ailleurs qu'une enquête judiciaire ait été ouverte déjà et nous offrons, nous, MONUSCO, notre concours à l'équipe des techniciens sur place qui ont entamé donc les enquêtes sur le terrain. Nous attendons de prendre connaissance des détails de ce rapport donc des enquêteurs sur place et donc à la fin des enquêtes, que nous comptons une fois de plus accompagner, nous allons analyser ces résultats et nous prononcer officiellement donc sur les circonstances dans lesquelles est intervenu donc ces événements qui ont amené donc cette fosse commune à Maluku. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons dire, mais une fois de plus, comme pour les autres chapitres, la MONUSCO est vraiment décidée à accompagner pour faire la lumière sur cette affaire. Merci. Nous allons prendre une dernière question avant de nous prendre à Goma, parce que je vois que les journalistes à Goma déjà lèvent les... du côté de... Oui, ici, il y a... Passez le micro juste à côté. Voilà, allez-y.
C'est Geneviève Makoulou pour le compte de Kin 24 Télévision. Monsieur Charles, le lundi, vous étiez en réunion avec les ministres des médias. On peut avoir les retombées de cette réunion. Et qu'est-ce qu'on reproche à la radio Capi?
On vous a dit qu'on reprochait quelque chose à Radio Capi. Non, il faut dire que cette rencontre que nous avons eue au ministère des médias s'inscrit dans le cadre du dialogue stratégique entamé par les autorités du gouvernement avec la MONUSCO suite à la résolution 2211 du Conseil de sécurité. C'est la toute dernière résolution du Conseil de sécurité, signée ou publiée il y a quelques semaines, 3 semaines maximum, je crois. Et donc, dans ce cadre, un certain nombre de groupes de travail ont été créés pour un peu étudier tous les contours de la stratégie de sortie éventuelle de la MONUSCO du pays. Et donc, c'est dans ce cadre que s'inscrivait donc cette rencontre au ministère des Médias pour voir du côté du sous-groupe communication, quelles sont, j'allais dire, les différentes étapes qu'il fallait préparer, mettre en œuvre pour accompagner cette stratégie de sortie de la MONUSCO du pays. Nous avons eu une rencontre très intéressante, très fructueuse avec nos collègues du ministère des Médias. Nous avons passé en revue un certain nombre de questions, dont, c'est vrai, j'allais dire, la question de l'existence ou de la pérennisation future de Radio Okapi, car pour nous, MONUSCO, nous voulons voir au départ de la MONUSCO une Radio Okapi qui reste dans le pays au service de la population tout entière. Et nous en avons discuté. Les discussions ne sont pas achevées, car vous savez que dans le cadre de ce dialogue stratégique, l'objectif c'est de faire un point lors de la prochaine séance du Conseil de sécurité en septembre 2015, donc dans quelques mois. Donc les discussions non seulement au niveau du groupe de communication média, au groupe de communication se poursuivent, ainsi qu'au niveau des autres groupes qui ont été créés dans le cadre de ce dialogue stratégique. Pour l'instant, nous n'avons pas de conclusion. Les semaines qui viennent, les mois qui viennent, nous allons continuer les échanges avec nos collègues du ministère des Médias. Nous pensons vraiment aboutir à des résultats concrets, pratiques, que nous allons partager avec vous donc à l'issue de ces négociations et de ces discussions. Direction Goma, s'il vous plaît, sinon il y aura une levée de bouclier à Goma là. Trois ou quatre questions à Goma, s'il vous plaît.
C'est Monsieur Okito Papi du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse au chef de bureau de la MONUSCO Nord Kivu. Monsieur le chef de bureau, n'avez-vous pas peur aujourd'hui ou demain qu'on vous accuse d'être à connivence avec le FDLR, d'autant plus que l'attaque là où à Sake, là où on a attaqué les officiers congolais, il y a eu quand même la présence remarquée de la MONUSCO, mais qui jusque-là n'ont pas fourni ni les informations, ni apporté une aide à ces officiers de l'FRDC.
Bon, comme vous savez, la MONUSCO est ici au service du gouvernement congolais. C'est malheureux que cet incident soit arrivé. Évidemment, c'est une embuscade et on ne peut pas être derrière chaque incident qui arrive. Donc, malheureusement, cet incident a eu lieu et ni les FARDC ni la MONUSCO ont pu l'empêcher.
Juste pour préciser, la MONUSCO vient en soutien au gouvernement dans le cadre de son mandat sur l'ensemble des questions que sont les questions de protection des civils, les questions de sécurité, les questions de stabilité du pays, etc., etc. Deuxième question à Goma.
Merci. Je suis Espoir de Radio Pôle FM à Goma. La question s'adresse à M. Bambara. Où en est-on avec les tractations entre la MONUSCO et les gouvernements congolais quant à une éventuelle implication des forces onusiennes dans la traque contre les FDLR?
Justement, l'un des premiers objectifs que vise le dialogue stratégique, en tout cas vu du côté MONUSCO, c'est de voir dans quelle mesure, assez rapidement, donc la MONUSCO pourrait reprendre ou rejoindre les opérations contre les FDLR. Les discussions ont commencé, voilà, déjà deux semaines. Les discussions avancent très bien. Nous essayons de nous mettre d'accord avec la partie gouvernementale sur un certain nombre de mesures d'accompagnement en vue d'accélérer ou de permettre en tout cas à la force de la MONUSCO de rejoindre les FRDC dans la traque donc des FDLR, et ce que je crois le général Dos Santos Cruz peut confirmer. Les discussions ont commencé avec la partie gouvernementale et bien avant d'ailleurs ce dialogue stratégique. Vous étiez déjà, vous général, en contact avec les différents acteurs des forces militaires des FRDC pour voir dans quelle mesure justement cela pouvait reprendre.
Je pense qu'il y a la conversation. Je pense que la solution, nous sommes très proches de la solution. Et il y a la volonté de recommencer les opérations conjointes. Et je suis
assez confiant.
Je suis confiant que nous allons recommencer très rapidement.
En tout cas, c'est le vœu le plus cher de la MONUSCO pour l'instant. Troisième question à Goma.
Allez-y.
Moi, c'est Vivian Zabarina pour les comptes des sites Imbori et la radio Moutani localement. En fait, ma question, c'est par rapport aux publications ou les rapports des Human Rights Watch soupçonnaient les services de sécurité d'avoir enterré 424 morts dans une fosse commune de Maluku. J'aimerais seulement avoir des précisions si réellement ce rapport n'a pas des traits ou n'a pas des concordances avec votre publication ou votre rapport du Bureau conjoint des Nations Unies qui a été publié le mois dernier. Merci.
Vous dites bien le mois dernier, la découverte de ces fosses vient d'être faite, du moins il y a quelques jours, quelques semaines. Donc, nous n'avons pas à corroborer pour l'instant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à l'une des toutes premières questions, le Bureau conjoint des Nations Unies va être associé ou voudrait être associé en tout cas aux enquêtes qui se mènent sur le terrain à Maluku, et nous pourrons vous donner un peu plus d'amples informations sur le nombre, parce que nous voulons pas entrer dans la spéculation sur le nombre de corps retrouvés dans ces fosses communes. Nous allons également essayer, dans la mesure du possible, à la fin des enquêtes qui sont menées sur le terrain, de voir dans quelle mesure nous pouvons communiquer sur les circonstances qui ont conduit donc à la création ou à ce que ces corps soient donnés, soient abandonnés dans ces fosses communes. Voilà juste ce que l'on pouvait dire. Nous allons revenir ici à Kinshasa pour prendre... on oublie souvent les gens de la porte parce qu'ils sont un peu cachés. On veut prendre une question à la porte, là, s'il vous plaît.
Pauli Mouzalia pour la BBC. Ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines maintenant que des jeunes activistes ont été arrêtés. On signale l'arrestation d'autres jeunes hier à Goma, de la Lucha, qui auraient également été arrêtés. Ma question est de savoir, est-ce que le Bureau conjoint des Nations Unies est en contact avec les autorités sur cette question? Si oui, que disent-elles?
Bien sûr que oui, le Bureau conjoint est en contact avec les autorités chaque fois que nous estimons qu'il y a eu violation des droits de l'homme, car il faut le rappeler ici, non seulement dans la constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau des conventions internationales pour ce qui touche les questions des droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives sont garanties. Et donc, nous rappelons donc aux autorités que dans le cadre de la constitution et de ces conventions internationales, il faut garantir également aux citoyens congolais les libertés de réunion, les libertés d'expression, etc., etc. Donc, le bureau conjoint a des délégués qui suivent toutes ces questions, et c'est pour cela que quelqu'un le rappelait tout à l'heure, chaque mois, ils font un point sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Ils interpellent les autorités gouvernementales pour qu'elles agissent, car les résultats mensuels de leur enquête sont partagés avec les autorités, et nous voulons voir dans la mesure du possible que les personnes arrêtées puissent être traduites devant les justices pour qu'elles puissent, se défendre éventuellement, car jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie, ces personnes sont supposées ne pas avoir, de griefs en tant que tel. Donc il faut effectivement amener ces personnes devant les autorités judiciaires compétentes pour que les procès puissent se dérouler afin de les libérer ou de confirmer les charges contre elles. Voilà ce que l'on peut dire. N'oublions pas, on va revenir ici dans la salle. Le micro est où? Bon, est-ce qu'il y a une question de ce côté? Ensuite, on va venir plus bas.
Merci. Moi, c'est sur le plan humanitaire. Moi, c'est Flavien Moussens pour les comptes de Planète. Vous avez parlé de l'insécurité dans la province orientale, mais aussi l'insécurité dans la province de l'Équateur. Et vous avez évoqué aussi, il y a des entrées de réfugiés venant de la Centrafrique suite à la situation qui se passe là-bas. Parmi ces réfugiés, il y a des gens, des éléments qui ont des armes, et ainsi de suite. Quel est le mécanisme que vous avez fait sur place pour localiser les militaires et les civils, pour les séparer et pour travailler normalement?
J'ai pas parlé de l'Équateur.
Ok, d'accord. Le lien entre l'Équateur et la province n'est pas très clair, mais bon. Concernant les l'information sur quoi supposée des personnes qui rentrent sur le territoire avec des armes, c'est bien ça. Écoutez, je vais donner essayer de vous répondre, mais je pense qu'il faudrait aussi l'adresser au niveau du HIE qui est présente là-bas en Équateur et qui, elle, est chargée de l'enrôlement des personnes réfugiées qui arrivent. De prime abord, toutes les personnes sont considérées comme des personnes civiles et qui ont besoin d'assistance jusqu'à ce qu'on puisse démontrer, prouver qu'elles sont rentrées avec des armes ou bien c'est une personne qui appartient à un groupe armé ou qui a une milice, quelque chose. Donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas l'information dont vous parlez.
Troisième question ici, ensuite on ira à Goma. Peut-être un peu au milieu, il y a une dame à côté, mais le mois de la femme vient de s'achever, mais on peut leur donner encore quelques semaines.
Annie PA Digital Congo. Je voulais juste revenir sur la traque des FDLR pour demander pourquoi la MONUSCO tient toujours à la reprise des opérations contre la traque des FDLR. Est-ce que la MONUSCO trouve que le FARDC, dans l'opération menée par les FARDC, est un échec ou pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à répondre à ces opérations?
Est-ce que vous avez des éléments, vous, à votre niveau, qui vous indiquent que ces opérations sont à 100% un succès à l'heure actuelle?
Ça, moi, je ne le dis pas. C'est à vous de me répondre.
D'accord. La réponse est que la dernière résolution 2211 du Conseil de sécurité demande à la MONUSCO, dans la mesure du possible, de voir comment elle peut reprendre le soutien au FRDC. Et c'est ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous essayons, dans le cadre du dialogue stratégique avec le gouvernement, voir comment nous pouvons harmoniser nos différentes positions pour répondre à ce souhait des membres du Conseil de sécurité qui parle au nom de la communauté internationale, dont fait partie d'ailleurs la RDC. Et donc, vous savez que d'ailleurs, lors de ces différents débats au niveau du Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères y était représenté, ainsi que d'autres autorités, d'autres officiels de la RDC. Donc, des discussions ont eu lieu. On a demandé, le Conseil a demandé à la MONUSCO d'étudier les voies et moyens pour reprendre langue avec les autorités et accompagner le processus de neutralisation des FDLR, et c'est ce que nous allons faire, je crois. Général, vous avez quelque chose à ajouter?
Non, pour moi, pour la partie militaire, c'est seulement la condition de la concertation, de la coordination avec le gouvernement, pour recommencer l'opération conjointe. Pour nous, nous sommes prêts à quelques moments pour recommencer et pour le soutien à la FRDC, tactique, logistique et tout le soutien et le travail ensemble. Il n'y a pas de problème pour les militaires.
Tout à fait. Direction Goma, trois questions alors qu'il nous reste encore 5 minutes avant que Radio Okapi ne prenne le relais pour la suite de ces opérations, de ces informations, je voulais dire.
Ok, je me nomme Roberto Kituka Ongemucha Milimani, je suis journaliste indépendant. Ma question, je l'adresse au général Cruz. La majorité des troupes de FARDC et celles de la MONUSCO sont à l'est de la RDC, pendant que la partie de certains territoires du nord et du sud Kivu sont menacés par les groupes armés. Comment allez-vous vous comporter en cas de menace d'attaque sur d'autres villes du pays? Merci.
Général, vous avez compris la question? Pas de réponse. Ok.
La question est que il y a la FDC et la MONUSCO. Ensemble, les résultats sont meilleurs que le travail isolé. Alors, c'est important le travail conjoint, parce qu'il y a la possibilité d'avoir beaucoup de réduction, il y a l'occupation du terrain, il y a la mesure tactique, le soutien logistique, le mouvement de la flexibilité, la vitesse de las opérations. Alors, j'attends que que nous allons recommencer très rapidement.
Goma.
Au fond là-bas, après on termine là.
J'ai révélé le compte de la radio de Taïna Goma. Ma question est à Yvon. Vous avez donné l'état des lieux de violence sexuelle en province orientale. Quel est le rôle qui vous
Violence sexuelle en province orientale, qu'en est-il au nord Kivu?
Les violences passées sur les gens.
Oui, est-ce que le chef de bureau de la MONUSCO ou il parle, est-ce que qu'en est-il des violences sexuelles au nord Kivu? Je crois que c'était ça la question. Est-ce que Monsieur Daniel Ruiz a quelques éléments de réponse?
Nous allons répondre à cette question à notre briefing de vendredi.
Merci. Dernière question à Goma avant qu'on ne revienne ici.
Allez-y.
Oui, c'est Daniel Michombero pour Vision Chalafam Télévision. Ne peut-on pas parler du tour à rancir des opérations qui se poursuivent par les FARDC au nord Kivu suite à l'occupation de certains villages à Walika de part de groupes armés? J'adresse ma question au général Cruz.
Reprenez la question, elle a été très mal comprise ici à cause des ondes qui ne passaient pas très bien. La question c'est?
Oui, je demande si on ne peut pas parler du tour à rond sur les opérations qui se poursuivent par les FARDC au nord Kivu suite à l'occupation de certains villages à Walikale par des groupes armés. Merci.
Amadou Ba, est-ce que vous pouvez reprendre la question pour nous, s'il vous plaît, parce que on a eu.
Alors, le monsieur demande de faire le point de la situation sur les opérations des FARDC dans le territoire de Walikale. Voilà. Que peut-on dire des opérations de traque contre les groupes armés dans le Walikale?
De la part des FARDC, moi je crois que le général Mouchalé Léon était en conférence de presse ces jours-ci à Goma. Ce genre de questions devraient lui être adressées directement. Nous allons donc revenir ici à Kinshasa pour boucler cette conférence de presse avec une question là et puis une question sur la gauche après. Micro.
Merci. C'est venant vous dire ça, RTNC. Je m'adresse à Madame Geneviève Dupnud. Je n'ai pas du tout été convaincu, ou l'opinion congolaise n'a pas été convaincue du tout des estimations du PNUD selon lesquelles la Terre comptera d'ici 15 ans, donc en 2030, 9 milliards d'habitants et que la RDC à elle seule sera en mesure de nourrir 2 à 3 milliards d'habitants, alors que avec les 70 millions d'habitants, la RDC a des problèmes pour les nourrir. Voilà, donc qu'est-ce qui a motivé ces estimations au PNUD? À vous.
Merci pour la question. Effectivement, c'est un point très important. Ce qui est clair, c'est qu'en 2030, on sera 9 milliards. Ça, on ne le conteste pas. La RDC, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. Donc de terres potentiellement cultivables. La RDC, c'est 80% de personnes, hommes, femmes, qui travaillent dans l'agriculture, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, tout ça. D'accord ? C'est tout le secteur de la nourriture, transformation, production, etc. Alors, si les conditions économiques sont réunies, c'est-à-dire si l'agriculteur peut produire, avoir accès au marché sans que sa récolte ne pourrisse sur pied. Si les routes sont réparées, s'il y a des entrepôts, s'ils ont accès à des semences améliorées, à des engrais, si des banques investissent, si on donne du microcrédit, si les femmes sont prises en compte dans l'agriculture, s'il y a des entreprises de transformation. Vous voyez, je dis tout le temps si, parce que pour le moment, effectivement, ça n'existe pas. La RDC n'est pas capable de nourrir ses 70 millions d'habitants. Il faut à peu près 1,5 milliard d'importations par an. Donc ça veut dire que la nourriture vient des autres pays. L'idée de l'agribusiness, c'est que potentiellement, la RDC est capable de nourrir 3 milliards d'habitants d'ici 2030 si les conditions économiques, politiques, etc. sont réunies. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis il y a une semaine autour de ça, à 32 pays et tout, ici à Kinshasa, pour dire, OK, le potentiel est immense en RDC, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Mais la priorité, c'est effectivement que d'abord la RDC puisse nourrir ses propres habitants et être autosubsistante. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Tout à fait, okay. Je crois. Qui a la chance de nous donner la dernière question? Un gentleman? Ouais, allez-y. Choisissez-vous.
Nico, c'est Saint-Germain des Prés avec nos connexions. J'ai une petite question à l'endroit de Charles Bambara.
Et il n'y a pas de petite
laquelle,
question.
Oui, à travers laquelle je voudrais savoir les degrés de concertation qui existent entre Martin Kobler et Martin Kabouloulou, je veux dire le ministre congolais des Mines, à propos du contrôle dont se trouve chargé la MONUSCO sur les activités minières à l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai lu dans le chapitre 15 de la résolution 21. Je dis et je vous remercie.
Tant mieux, vous m'avez rassuré, je croyais que vous allez me citer la Bible encore. nous avons l'un des membres du bureau de M. Kobler, mais j'ai pas, entre les deux, Martin, je ne sais pas quel est le degré de concertation, malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. On va essayer de voir s'ils ont des concertations sur le volet minier. Vous savez que c'est un domaine qui intéresse la MONUSCO, bien sûr, ça fait partie également de notre mandat, et donc c'est des questions que nous surveillons, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons, mais nous allons revenir peut-être plus en détail sur ça. Merci, et bonne journée à tous et à toutes.